Jean Brassard qui aime évidemment la musique country western.
Ah oui, et moi j'adore le country western d'ailleurs. C'est tellement sick qu'aujourd'hui, la mission la plus super vedette de deux, en fait, deux anciens détenteurs du titre intercontinental de chez Nommé Prince Mouton. Et moi le roi, Raymond ne l'est pas.
Votre Majesté, c'est à
vous. Oh. Ah. Les amis, vous connaissez-vous Jake the Snake Roberts?
What's going on with the World Wrestling Federation, fans? Vince McMahon, the big corporate hotshot, Mr. Style, always wearing the Armani suit, getting down and dirty, I mean, right on top of the heap. And not only that, climbing the 10-foot steel cage to meet no other than his nemesis, Stone Cold Steve Austin. Whew, what an incredible matchup that was.
Ce n'est qu'une fois par année qu'on peut voir les plus grandes superstars de Raw contre celles de SmackDown Live.
Et toute cette action est ici, à Houston, au cœur du Texas, pour les Survivor Series.
Qu'est-ce qui ne va pas, Jean?
Un petit abcès.
Ah, mais tu pourrais obtenir un rendez-vous avec le dentiste Yankum.
Non, ça va, ça peut aller.
Non, mais je suis convaincu qu'il n'a pas une grande liste d'attente.
Non, je vais attendre une petite semaine, je pense.
Non, Jean, je pourrais t'organiser ça.
Non, bon, ça va.
Bon, d'accord. Alors, les amis, c'est tout pour cette semaine. Ici Raymond Rougeau et Jean Brassard qui vous souhaitent une bonne semaine à tous. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, ici, pour les superstars de la World Wrestling Federation.
Bonjour et bienvenue à l'édition du 4 octobre 2020 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Ben, bonjour Marc.
Ben, bonjour.
On a un invité très très spécial aujourd'hui.
Je suis honoré TJ. La voix qui nous a guidés vers la lutte de notre enfance.
Exact.
Avec M. Rougeau aussi. Son fidèle compagnon. Et notre invité aujourd'hui, je te laisse le présenter.
C'est un acteur, un chanteur et un commentateur de la WWE, M. Jean Brassard, bonjour!
Hey, bonjour, bonjour! Ça fait plaisir d'être avec vous.
C'est très gentil, merci. On est content de vous avoir aussi.
Hein?
Très honoré.
Oui. Et en fond, on a une petite entrevue aujourd'hui avec vous. On avait vraiment hâte de le faire. Ça fait longtemps qu'on en parle entre nous autres.
Oui, vraiment.
Ah oui, pourquoi donc?
Ah, parce que comme on l'a dit, on a grandi avec vous. En tout cas, moi, je me rappelle... quand j'étais plus jeune, c'est la RDS, le réseau des sports.
Oui.
Il y avait le WWF Superstar qui jouait tous les samedis soirs à 10h.
Uh-huh.
Moi, j'allais chez mon grand-père. J'avais pas le câble à l'époque, fait que j'allais chez mon grand-père en bas pour le regarder avec lui.
Ouais.
On riait bien quand vous faisiez vos blagues là, avec Raymond.
Ben, un de nos moments favoris encore aujourd'hui, parce qu'on se réunit pour écouter les événements principaux, les pay-per-views, comme on
oui.
Dit. Puis,
oui,
on sait quand on fait la tournée, avant COVID, bien sûr, la tournée des commentateurs,
uh-huh.
On sait que les commentateurs français s'en viennent, puis c'est un de nos moments favoris. Là.
Ah oui, d'accord. Vous voulez pas dire les commentateurs français de France, ceux qui sont là maintenant?
Des fois, ça alterne. Hein?
Oui, c'est ça.
Ouais.
Maintenant, vous voulez dire?
Oui.
Et des fois, il y a d'autres. Il y a M. Aigu, je pense.
Azus. Oui, Christophe et Philippe.
C'est ça.
Mais c'est fini. Jusqu'à l'an dernier, en fait, ils venaient pour ce qu'on appelle les quatre grands pay-per-view, ce qu'on appelait à l'époque, nous, les télés à la carte.
Oui.
Télévision à la carte.
Mais
donc, pardon?
Sur Canal Indigo.
Oui, c'est vous, c'est vrai, c'était le Canal Indigo. Donc, ils venaient à cause d'un contrat qu'ils avaient avec Canal Plus et je pense, non, la chaîne AB1 en France.
OK.
Alors, Christophe et Philippe venaient quatre fois par année, mais depuis l'an dernier, c'est Raymond Rougeau et Jean Brassard à chaque événement pour les pay-per-view. Alors qu'eux continuent à faire des événements hebdomadaires, par contre, de faire Raw et SmackDown.
D'accord.
Sans les dénigrer à notre plus grand plaisir.
D'accord. Sans commentaire. Chacun ses goûts.
Et voilà.
Ici, il y a un fan d'un autre de commentateur, M. Sean Deng.
Oui, c'est un de nos préférés aussi.
Ah oui?
Oui, Sean Deng.
C'est pas qu'on le voit, nous autres, on pop à la maison.
Oui, c'est un pop assuré.
Ah, super. Et pourquoi donc pour Sean et pas pour les autres? Les Russes vont être très jaloux, d'ailleurs.
Mais ils ne nous écoutent pas, je pense.
Ouais, dites-le pas.
Oui, voilà. C'est possible.
Fait que dans le fond, avant de commencer avec votre cheminement après la soirée de la WWE, enfin, étiez-vous un fan de lutte avant d'être engagé?
Pour dire que j'étais un fan de lutte à l'époque où j'ai été engagé, non. Mais c'est intéressant que tu parlais justement que tu regardais la lutte quand tu étais tout petit avec ton grand-père, parce que moi aussi j'ai fait ça. Comme bien des enfants. Et c'est intéressant parce que c'est toujours avec les grands-parents, c'est toujours avec le grand-père ou la grand-mère, en fait.
C'est vrai.
Bien que moi, je suis d'une génération un petit peu plus vieille que la vôtre, mais on dirait que le phénomène est perpétué de génération en génération. Mais à l'époque...
Tu es plus jeune que Marc, moi, je trouve.
Ah oui, d'accord. C'est un beau compliment. Donc, moi, à l'époque, c'était en 94 quand j'ai commencé avec WWF, évidemment, à l'époque.
Oui.
J'étais plus dans le théâtre, dans la chanson, faire un peu de cinéma, dans la danse, et plus du côté artistique. Et tout à coup, pour faire un peu d'historique, c'est un de mes agents de pub, en fait, qui m'a envoyé sur un appel. Elle m'avait dit que c'était pour une chaîne sportive française.
Okay.
Alors, et elle ne savait pas c'était quoi, en fait.
Okay.
Et moi non plus. Alors, je suis arrivé à la première audition et puis dans la salle d'attente, il y avait une feuille avec des notes. Et ça disait « Parler des nouveaux tatous de Bam Bam Bigelow et de son manager Luna Vachon et de son combat avec, je pense, avec Razor Ramon.
Okay. »
Et puis après, il y avait plein de trucs. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? J'ai aucune idée de ce que c'est. Alors, je suis entré dans la salle d'audition et je leur ai dit, écoutez, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, ils ont expliqué, on est la WWF et on a un combat enregistré en vidéo, 5 minutes ou 3 minutes peut-être. Et on aimerait que vous commentiez le combat. Alors, moi, je faisais beaucoup d'improvisation à l'époque. Et donc, bon, j'ai dit d'accord, je connais rien, je peux pas dire que je connais aucune manœuvre ou quoi que ce soit du catch, de la lutte. Et ils ont dit, bon, on s'en fout, alors allez-y, vous avez qu'à dire ce que vous voyez. Alors, ils ont démarré la vidéo et j'ai dit, mais c'est incroyable, il a le cerveau en feu, ce Bam Bam Bigelow, il va faire tout flamber dans la pub. Je suis allé avec. Et puis, je suis reparti sans y penser plus davantage, vraiment. Et puis, 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel pour un callback. Okay. Alors, pour revenir, et cette fois-ci, c'était dans les studios de la WWE, disons, à Stamford, Connecticut. Et c'était pour rencontrer celui avec qui je devrais travailler si j'étais engagé. On était une dizaine de gars qui étaient là. Et alors, je me suis retrouvé. C'était une audition à 2 volets. On était en studio de radio. Pour les voir. Hein. Et donc, encore une fois, ils ont mis un match. Et cette fois-ci, bon, c'était en duo, évidemment. Et après, on a travaillé un petit peu, parce qu'on faisait beaucoup de trucs devant la caméra. À l'époque, on avait des petits skits, des petits moments où on annonçait ce qui allait venir. Il y avait des petits segments entre nous. Et alors, voilà. Et après, je suis reparti. Raymond et moi, c'était... On était. Moi, je sentais qu'il y avait une bonne chimie déjà. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être un truc qui va marcher. Et puis voilà, je suis reparti et la semaine d'après, ils m'ont appelé pour que je commence à travailler.
Parfait. Puis c'est là qu'on connaît l'histoire après qui est arrivée.
Ouais, ben oui. Vous avez fait partie de l'histoire.
Oui. Avez-vous rencontré M. McMahon quand vous avez fait ce callback-là, ou ça a pris plus de temps avant de le rencontrer?
Non, ça a pris plus de temps, vraiment. Je ne peux pas dire exactement. Il y avait nos deux producteurs principaux qui étaient avec nous et le réalisateur de notre émission à nous, qui à ce moment-là, c'était les superstars de la World Wrestling Federation et Monday Night Raw. Et puis, je pense qu'on a commencé à faire les pay-per-view peut-être 1 mois ou 2 après. Je n'ai pas une excellente mémoire, alors peut-être que vous pourriez même m'informer vous-même.
Je pense que tu as une très bonne mémoire.
Oui.
Oui.
Alors, voilà. La gimmick, si on veut.
Ah oui.
Mais ouais, ça, non, je me rappelle très bien. Je me rappelle, il y avait Royal Rumble, je me souviens vous avoir vu en direct avec Raymond à la table des commentateurs, ringside.
Oui, d'accord.
Je me souviens aussi, étiez-vous là sur un Series 97 avec le Screwjob de Montréal?
Absolument. Et j'étais là.
Okay, wow. Je me souviens de vous avoir vu là, mais ouais. Ça fait tellement longtemps, là, parce que moi, je suis un
oui.
plus grand fan de Bret Hart. Là.
Ah oui? OK.
C'est une discussion qu'on a souvent à l'émission aussi, Bret Hart contre Shawn Michaels, là, qui est ouais. meilleur.
C'est une grande, grande discussion.
Vous, ouais. juste comme ça, là, je n'oublie pas de pression, mais vous, ça serait qui?
Entre Bret Hart et Shawn Michaels?
Exactement.
Le meilleur?
Oui.
Écoute, je pense qu'ils quand on est à ce niveau-là,
ouais.
on peut pas parler de meilleur. Ils ont tous les deux, à mon avis, ils ont tous les deux de grandes, grandes qualités et des côtés un peu moins agréables l'un et l'autre, tu vois. Mais c'est deux grands athlètes et ce combat mythique, bon, on peut parler beaucoup de choses de ce côté-là, mais... Donc, je pense que Bret Hart, moi j'adorais Owen.
Oui, moi aussi.
En particulier, ouais. J'étais très fan de Owen. J'étais moins fan de Bret, bien que j'appréciais ce qu'il faisait sur le ring avec son air toujours de très mauvaise humeur.
Oui, ouais.
Et Shawn, évidemment, était beaucoup plus flamboyant. Il était beaucoup plus. C'est un vrai showman, Shawn. C'est un grand divertissement de le voir sur le ring avec son côté très arrogant. Mais c'était toute une autre époque aussi, hein?
Oui, oui, oui.
Mais c'est sûr,
ouais.
que, c'est sûr que la longévité de la carrière de Shawn a aidé aussi, à comparativement ouais. à Bret Hart, que ça a coupé un petit peu plus court. Hein.
Oui, c'était un parcours très, très abrupt, finalement, très coupé. Ouais. Mais donc, moi juste pour revenir, donc j'ai commencé en fait en mai 1994.
Jusqu'à?
C'était mes débuts. Je pense jusqu'en novembre 99.
Okay.
Peut-être 98.
Possible,
c'était donc, presque 5 ans.
On va le marquer sur notre page YouTube s'il y a quelque chose.
Ah oui, les fans, écoute, les vrais experts, c'est les archivistes oui. du catch, de la lutte, qui sont ouais. extraordinaires et qui savent absolument tout. Alors, c'est une grande question. Je sais qu'on me l'a déjà dit plusieurs fois. Ça rentre par là et ça ressort par on ne sait où.
Ouais. Dans le fond, comment s'est passée une journée de tournage à cette époque quand vous faisiez, mettons, du WF Superstar, mettons?
Quand on faisait les émissions, moi j'arrivais en général, on travaillait les mardis matins. Alors Raymond descendait de Montréal et moi je montais de New York parce que j'habite à Manhattan depuis presque 40 ans. Oh. Et.
Chanceux.
Parfois, oui.
Ouais, c'est ça, ça dépend des.
Non, en général, oui, c'est ma ville, il n'y a aucun doute.
Mis à part le président, vous êtes chanceux.
Sans commentaire, oui.
Sans commentaire.
Oui, notre président qui n'est pas en bonne condition aujourd'hui, en tout cas.
Non.
Ouais. Alors, donc, on se retrouvait dans les studios de télévision à Stamford et on commençait, en général, on faisait. On commentait les matchs dans le studio de radio, dans la booth. Et après, on passait au maquillage et on allait dans les studios de télé. On faisait tout ce qui était promotion, les shows à venir et tout ça. Et après un certain moment, j'ai commencé à avoir des segments à moi qui annonçaient ce qui allait venir, effectivement. Mais c'était toujours avec un côté un peu loufoque. Il y avait toujours un côté blagueur qui est bon, ce que je crois que moi j'ai amené dans avec ma personnalité et avec ce que j'avais un peu comme clown.
Finalement. Moi, je me souviens très bien vos segments seuls, le fameux Slam Jam.
Oui.
Avec les
décors,
avec les cut-outs des lutteurs en arrière de vous. Là.
Ben, il y en a un en particulier qu'on voit sur sur YouTube, je crois, de temps en temps, avec Bret justement derrière moi.
Oui.
Ouais.
Le côté musical aussi a aidé à apporter cette couleur-là à l'émission et à tout ce qu'il y a avec aussi.
De quel côté? Parfois, il manque un mot ou deux.
Le côté théâtral a aidé pour amener cette couleur-là, en fait.
Oui, ben en fait, c'est intéressant que tu dises ça parce que pour moi, c'est ça qui m'a accroché tout de suite.
Ouais. Hein?
Le côté allégorique. Mm-hmm. Du spectacle où la lutte, ce que c'est devenu comparativement à ce que c'était dans les annales, dans les années 50, 60, ouais. etc. Et le génie de Vince McMahon, évidemment, qui a été de transformer ce phénomène de deux gars qui se tabassent dans un carré avec des cordes autour
en...
Ouais, c'est devenu ouais. un soap opera. Et donc, c'est du grand théâtre avec des archétypes, avec des héros, avec c'est les essences du bien et du mal qui se confrontent, qui se transforment, s'influencent. Alors moi, et puis avec toutes les couleurs, avec toutes les signatures des mouvements, des manœuvres et des entrées, la musique, etc. Alors moi, tout de suite, ça m'a parlé immédiatement.
Ça reste un spectacle hors pair, la lutte professionnelle, là, avec tout le côté glamour que ça apporte. Là. C'est vraiment... Quand tu es jeune, tu regardes ça, tu viens automatiquement hook parce que tu vois des personnages plus grands que nature que tu verrais jamais. Plus gravité à regarder ça plus longtemps. C'est comme ça que moi, j'ai grandi dans l'époque du Ultimate Warrior.
Oui.
Et puis, c'est ça qui m'a accroché à la lutte le plus que Hulk Hogan à cette époque.
Mm-hmm. Ah oui, c'est des super-héros et il nous a cessé. Sa vie est quelque part entre la réalité et la fiction. C'est de la fiction, mais on voit que c'est des vrais êtres, c'est des vrais hommes, c'est des vraies femmes. Et on est vraiment, ça accroche, c'est un endroit extrêmement particulier. Et quand j'ai commencé à faire les pay-per-view, justement, d'être en salle, d'être dans les auditoriums, dans les arènes, ce qui est extrêmement particulier et merveilleux, c'est le public, c'est les fans qui sont sur place, qui est l'autre partenaire du jeu, qui a une voix aussi importante de ce qui se passe, qui peut diriger l'énergie d'un combat complètement. Tu sais, quand tu as des 10, 20, 40 000 personnes qui commencent à dire « This is awful! » ou « This is awesome! » Tu vois, ça shift.
Mais TJ, si tu me permets une question que j'aimerais poser à Jean, vu qu'il a côtoyé plusieurs stars de la WWE et WWF à l'époque. Un personnage ou un lutteur, pas nécessairement dans le ring, mais que vous avez croisé, qui vous a impressionné par sa prestance, par le respect qu'il imposait à ses pairs?
Ben, l'Undertaker.
Oui, c'est souvent la réponse.
Oui, parce qu'en plus, c'est un type qui est sur le ring, dans bon, le mythe qu'il a réussi à créer, je pense au début sans vraiment s'en rendre compte, et puis qu'il a eu l'intelligence de le développer, de le sculpter complètement, et puis que c'est un type qui est un vrai gentleman, tu vois, d'un grand calme, d'un grand respect pour tous, d'une jovialité, mais très, très simple aussi et très... c'est pas quelqu'un qui court vers les autres, mais qui aussi il rejette pas les autres. Alors cette combinaison qui était assez splendide, mais aussi Owen Hart, définitivement parce que très jovial.
On a un point en commun. Moi aussi Owen Hart ça a été un de mes grands aussi.
Est-ce que vous avez déjà fait des pranks si on veut, Monsieur Owen Hart? Est-ce que vous en avez déjà fait un à vous?
À moi, non, parce que moi, je n'en mériterai jamais. Ça faut réserver du côté ça de M. Rougeau.
D'accord. Est-ce qu'il y a des moments marquants de votre séjour à la WWF, dans votre premier séjour, mettons?
Ben, c'est drôle, en fait, que je mentionne Raymond, parce que ce qui a été marquant pour moi, en fait, c'est d'avoir eu le privilège et la chance d'être intégré dans ce monde par un type comme Raymond Rougeau qui surtout à l'époque, alors qu'il était, ça faisait pas si longtemps qu'il était plus comme catcheur, donc il avait travaillé sur le ring et qui avait un respect de tous dans les coulisses, qui était connu de tout le monde. Et j'aurais pu arriver avec un type qui était simplement un autre commentateur.
Okay.
On aurait été tous les deux à l'extérieur, tu vois. Alors moi, au début, surtout, moi qui ne connaissais pas ce monde, et d'être accompagné, d'être dirigé, et d'être aux côtés de Raymond, ça a été vraiment quelque chose de très spécial pour moi. Ouais.
Avant de passer à votre après-carrière, si on peut dire, moi, il y a un moment que je veux vous partager, que j'ai toujours dans ma mémoire depuis toutes ces années. Il y avait un certain JBL qui s'appelait Justin Hawk Bradshaw.
Oui.
Et à la fin, il brandait ses adversaires avec son petit fer là, pour mettre JB dessus.
Oui.
Une fois que ça arrivait, il vous dit JB, Jean Brassard.
Ben oui. Mais c'est parce que je ne savais. En fait, il me connaissait à peine. Et je n'ai jamais vraiment réalisé pourquoi il insistait à mettre mes initiales partout où il passait. Ben, je me suis dit, finalement, c'était que, comme vous l'avez dit plus tôt, c'était un honneur pour lui de me connaître. Ouais. Et il voulait que ça se sache dans le monde entier. Alors, il faudrait que je lui en parle, en fait.
On va essayer d'avoir l'émission à un moment donné. Peut-être qu'il va pouvoir nous dire son côté de l'histoire, peut-être.
Ah oui, je suis sûr qu'il va être d'accord avec moi.
Marc, tu veux qu'on soit avec le prochain?
Oui, ben, étant moi-même cinéaste,
on
va passer au côté hors et spectacle.
Oui, d'accord.
Moi, j'avais aucune idée, honnêtement, que vous avez fait du cinéma, vous étiez chanteur et tout. Donc, mm-hmm. T'en es où un peu de ce côté de votre carrière-là?
Ben, c'est ce que j'ai poursuivi depuis la cinquième année à l'école. J'ai toujours été dans les arts.
Okay.
Et j'ai grandi en faisant du théâtre, en dansant, en jouant de la musique. Et en 1981, j'ai décidé de faire un voyage au début de l'été en descendant la côte des États-Unis, mm-hmm. la côte est des États-Unis. Et donc, oui, à peu près 40 ans plus tard, je suis resté là. Et en arrivant, j'étais à Boston pendant à peu près une année et j'ai obtenu une bourse d'études avec les Boston Ballet. Okay. Alors, j'ai dansé une année avec eux, mais avant ça, à Québec et à Montréal, en fait, j'ai joué. Je ne sais pas si vous connaissez Sylvie Tremblay, qui est une chanteuse et une actrice aussi, qui ne joue plus maintenant, mais qui pendant plusieurs années a été très présente dans la culture québécoise. Alors, je travaillais un peu avec Sylvie. Et quand je suis arrivé à New York après mon année à Boston, ben, je me suis mis tout de suite dans dans ce qu'ils appellent le Lower East Side, dans le quartier d'artistes, dans le début, dans les années 80, hein, 84, 80. 83, 84, 85, où c'était une période merveilleuse parce que, premièrement, on n'avait pas besoin d'être fortuné pour habiter à New York, à Manhattan. On pouvait se trouver un petit job de serveur dans un café et puis le reste du temps faire ce qu'on avait envie de faire. Et c'était un milieu artistique très, très bouillonnant. Il y avait plein de trucs. C'était très avant-gardiste. Alors, j'ai développé là-dedans et puis j'ai continué à faire. J'ai fait du théâtre. Qui était mon premier amour vraiment plus que la danse et dans l'écriture et la chanson, j'ai toujours chanté un peu aussi. Et donc au cours des ans, donc, j'ai un volet de ma vie qui est vraiment dans la chanson en tant qu'interprète et j'ai entre autres, j'ai deux spectacles que j'ai créés avec mon conjoint Dave Kruger qui est sur le sur Yves Montand. Je ne sais pas si vous connaissez Yves Montand.
Non.
Waouh!
Malheureusement.
Waouh! Alors là, c'est vraiment des grandes générations. Ouais, c'est qu'il y a presque un fleuve entre nous. Yves Montand, si vous voulez rechercher un peu, Montand est un des grands de la culture française. Il était un chanteur et un acteur de cinéma. C'est un des piliers de la culture française des années 50, 60, un peu comme Brel et comme Aznavour. Vous connaissez Aznavour?
Oui, on les connaît.
J'ai donc un spectacle aussi que j'ai présenté à New York et à Londres l'an dernier. Puis bon, on allait continuer à faire des tournées et tout, mais évidemment, ça s'est arrêté. Mais donc, j'ai toujours eu cette espèce de créneau vers la chanson française. J'ai grandi avec la chanson française beaucoup. Et à Manhattan, j'ai toujours vogué un peu dans des groupes où on représentait la culture non américaine. Mm-hmm. J'ai fait partie d'un grand spectacle sur Brel pendant un bon 2 ans aussi. Et d'autre part, donc j'écris ma musique à moi aussi. J'ai un album qui s'appelle 10, qui sont mes compositions. Il y a 5 chansons en anglais, 5 chansons en anglais, en français. Et l'autre plus grand volet, c'est ce que je développe en tant qu'acteur, et particulièrement à la télévision et au cinéma.
The Blacklist, entre autres, que j'ai vu.
Oui, The Blacklist. En fait, c'est la dernière chose que j'ai faite qui est diffusée maintenant. J'ai fait quelque chose sur la série MacGyver.
Ouais,
au début de l'année, qui ça devait diffuser au mois de mai. Mais finalement, comme mon épisode était au plein cœur de la série et qu'ils ne pouvaient plus tourner, ils ont coupé à l'épisode 13. Et c'est leur quatrième saison, donc ils ont mis le reste de la saison pour devenir la saison 5, qui devait être diffusée maintenant, mais il n'y a pas de date de sortie. Alors,
restez à l'affût.
On attend. Et voilà. Ouais, et tout le reste.
Si on peut vous souhaiter un rôle que vous n'avez jamais joué, ça serait quoi?
Un type de rôle?
Un type de rôle, ouais.
Ouais.
Un méchant?
Moi, je suis plus... Je peux faire le méchant, mais... moi, j'adore être dans la comédie romantique.
OK.
Ouais. Mais plus dans la comédie que dans le drame. Mm-hmm. Parce que, c'est encore une fois, c'est un peu le même côté que j'ai eu la chance d'amener dans le catch. Il y a certains petits rôles que j'ai faits dans un film et dans quelques petites séries aussi, où je me suis vraiment régalé. Mais ça pourrait être aussi comme un peu, je ne sais pas si vous connaissez la série Ozark, qui est sur Netflix, avec Jason Bateman, où c'est très noir, c'est très dense aussi. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai l'occasion, pendant que je suis en quarantaine, de regarder un petit peu ce qui se passe et ce qui se fait aussi au Québec. J'ai regardé un ou deux épisodes de la série Fragile, Mon fils,
mm-hmm.
L'autre qui est très populaire, je pense, maintenant, C'est comme ça que je t'aime.
Oui, absolument, sur ici, tout.tv.
Ouais. Non, il y a du bon, il y a de la bonne télévision.
Mm-hmm. Hein? Oui, absolument.
Et du cinéma.
Oui.
Parlant de bonne télévision, comment votre retour à la WWE s'est passé?
Écoute, on est 2017. Okay. Tout à coup, mon cellulaire sonne et je vois le nom de mon producteur de la WWF. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et donc, puisqu'ils ont leur propre réseau, là, le WWE Network,
absolument.
Et il me dit, écoute, on fait ce qu'on veut maintenant. Nous, tout s'était arrêté particulièrement parce que, à cause du conflit qu'il y avait à l'époque entre la WCW, et WWF avec Canal+, toute la série, toute l'équipe de Canal. Donc, il y avait eu, en tout cas, je passe toute cette histoire. Mm-hmm. Mais donc, tout s'était terminé là-dessus, à peu près. On avait continué sur le réseau, sur RDS, pendant quelques mois. Mais le réseau était trop petit, en fait, pour continuer, pour que ça vaille la peine pour eux. Et donc... Tommy me dit « Bon, on a notre réseau maintenant et on voudrait que tu reviennes, si ça t'intéresse. » Alors, je suis revenu, j'ai fait un WrestleMania avec Philippe Rotman, qui m'avait remplacé d'ailleurs. Okay. Je ne sais pas si vous connaissez Philippe. Il a travaillé, je pense, pendant un an, peut-être en 2000 et 2001, quelque chose comme ça, avec Raymond.
Okay.
Ouais. Et donc, je suis revenu avec Philippe et on a fait WrestleMania. Et ça n'a pas marché.
Mm-hmm.
Enfin, et après coup, j'ai parlé avec Tommy. J'ai dit, écoute, pourquoi ne pas faire revenir Raymond? Et alors qu'on a recontacté Raymond et Raymond est revenu avec nous. Et ça a été un cadeau. C'était un très, très grand cadeau pour nous deux parce que d'avoir la chance tout à coup de réaliser presque 20 ans plus tard ce qu'on avait, nous, à l'époque. Ce qui est intéressant aussi, c'est que maintenant, il y a les réseaux sociaux qui n'existaient pas.
Absolument.
Alors nous, on faisait nos shows, on faisait du mieux qu'on pouvait, on s'amusait, on se régalait. On disait, bon, en espérant que ça plaise à quelqu'un. Et une fois tous les 3 ou 4 mois, on recevait une pile de lettres écrites à la main. Et on continuait, on vous aime, etc. Des autographes, ouais. Mais on n'avait pas ce rapport immédiat avec les fans.
Ouais.
Et quand, donc, quand on est revenu, le producteur a dit maintenant, bon, on veut qu'il y en ait au moins un de vous deux qui ait une présence sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas tout à fait du domaine de Raymond. Et puis moi, bon, puisque je suis dans ça de toute façon, dans ma carrière d'acteur et tout, j'ai dit, je vais le faire. Alors, j'ai créé ma page Jean-Brassard WWE. Et ça s'est su petit à petit. Et là, on a eu un miroir. Mais on nous a, les fans nous ont redonné à nous-mêmes, quoi. Alors, et en voyant ça, et tout à coup, et en même temps d'avoir eu le plaisir de se revoir et de dire, on a la chance à nouveau de recréer quelque chose dans un contexte complètement différent, puisqu'on ne fait plus les shows hebdomadaires, et on ne se voit qu'une fois par mois. Alors, tout à coup, on a un week-end, Raymond et moi, on dîne ensemble, on soupe ensemble le samedi soir et le dimanche, on arrive en général dans les stades vers 11h midi. On passe la journée là. Et il y a toutes ces nouvelles équipes, en plus, qui sont là, des commentateurs internationaux. Ce qui fait qu'on est une bande, on est presque... c'est l'ONU des commentateurs, quoi.
On va prendre une petite pause parce que notre enregistrement va terminer bientôt.
Ah oui, d'accord.
On va couper, mais on va regarder peut-être un petit 5 minutes de plus après, puis on va tenir l'entrevue.
Super.
Parfait. C'est ça, votre rôle à WWE, vous rencontrez plusieurs lutteurs de générations d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai de la misère à parler d'un coup.
C'est parce que je vous intimide, c'est ça?
Voilà, exactement.
Avez-vous des coups de cœur?
Plusieurs. J'ai été épaté de voir, quand je suis revenu, et de voir tous les nouveaux athlètes que je connaissais pas, en fait, santé. Et particulièrement du côté de la division féminine.
Okay.
Parce que la division féminine était minime dans l'Attitude Era.
Ouais.
Et... que ce soit des athlètes comme Charlotte Flair, Asuka, Bayley et Sasha Banks, cette histoire entre autres maintenant, la façon dont les histoires sont ficelées tellement de façon savante et sur une période de temps énorme, et toute l'intelligence qu'il y a derrière ça. Alors ça déjà, ça m'impressionne énormément. De voir un type comme Roman Reigns qui a vraiment une présence incroyable aussi. C'est pas l'Undertaker, c'est un autre. Bon, il est c'est l'Empire romain qui est là aussi. Ouais. Donc encore une fois, ils ont continué et même, je pense qu'ils le font à plus grande échelle encore, à créer des personnages qui sont mythiques, qui sont extrêmes, et à la fois en invitant des tout jeunes. Je veux dire. Dominique Mysterio, tout à coup, qui arrive, qui est un petit nabo, quoi, le fils de son père, et puis ce combat qu'il a eu avec les combats récents entre Seth Rollins et Murphy dans le coin, et déjà les intrigues chacun de leur côté entre Murphy et Rollins.
La fille de Ring, maintenant.
Alors, justement, et l'implication des familles qui entrent en jeu ensuite. Moi, j'adore en termes de catcheur, en termes de lutteur, je trouve que Ricochet est fantastique à regarder.
C'est vrai.
Avec ses acrobaties et tout. Mais vraiment, c'est comme dans n'importe quoi, je pense, dans tous les sports. On le voit dans les Olympiques, à chaque fois qu'il y a des Olympiques, il faut pousser la coche encore un peu plus loin. Et maintenant, tout ce qui se fait, un type comme John Morrison, par exemple, qui a des manœuvres, il sort ça d'où, entre autres.
Les fans sont souvent critiques envers les catcheurs d'aujourd'hui, peut-être un petit peu plus qu'à l'époque, mais c'est tellement, ils ont tellement, c'est tellement un grand passé qu'il y a eu dans l'histoire. Il y a tellement eu de vedettes impressionnantes, si on pense à The Rock, Stone Cold Steve Austin, The Undertaker. C'est dur pour ces gars-là de suivre ce que tous ces athlètes-là ont fait avant. Donc, je pense que la critique est encore plus forte pour eux, donc encore plus difficile de faire leur marque aujourd'hui.
Oui, mais sauf qu'il faut, il faut mettre les choses en contexte. Qui est critique de ceux qui sont aujourd'hui, c'est ceux qui ont grandi dans la période de l'attitude. Ceux d'aujourd'hui, les fans d'aujourd'hui, bon, ils vont les connaître, mais ils grandissent, ouais, eux, avec ce qu'il fait avec aujourd'hui. Autres, hein. Et dans 10, 20 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont critiquer ceux qui vont venir après.
Ouais.
Mais moi, si je pense que ce qui se passe maintenant, ça ne manque de rien. J'en vois beaucoup des critiques. À chaque fois, ouais, ça me fait... Oui, mais écoutez, c'est un spectacle que de produire à chaque semaine. Mmh. Et NXT, et Raw, et SmackDown, et tout ce qui se passe autour en plus.
Il y a beaucoup de luttes en ce moment.
Il y a énormément de luttes. Et il y a, bon, il y a tous les petits shows satellites qui se produisent autour de ça, avec Miz et Miz, madame. Mais, ouais. Bon, les divas. Mais encore une fois, ce dont je suis le plus heureux maintenant, c'est la division féminine.
Oui, absolument.
Ouais, parce que, c'est encore une fois, c'est quand on parle, bon, tout dans le monde dans lequel on vit maintenant, que des jeunes filles, que des jeunes femmes puissent se dire, ben, ça, moi aussi, je peux faire ça.
Ouais.
Et ils ont vraiment des beaux modèles. Mmh. Ouais, non, je suis très fier de travailler pour cette compagnie, en fait, entreprise.
Oui. Vas-y. À l'arrière-scène, vous côtoyez plusieurs lutteurs. Est-ce que vous avez des coups de cœur vers l'autre côté du rideau, si on veut?
Il y a toujours le grand Cesaro.
OK.
Oh,
ouais.
ben oui.
C'est un ami suisse.
Oui, oui. Qui est d'une noblesse et d'une gentillesse superbe. Mais ça aussi, c'est un truc qui a changé. Je vais revenir pour répondre plus spécifiquement encore. Mais en général, le milieu dans les coulisses est beaucoup plus intégré que dans l'époque des années 90, où les gens étaient divisés par ce qu'ils faisaient davantage.
Ouais.
Les gens qui s'occupent des équipes de caméras, ça restait ensemble. Les designers de costumes et le maquillage ensemble. Les commentateurs, chacun de leur côté. Maintenant, c'est beaucoup plus un sens de faire partie d'un cirque, d'une grande famille.
Ouais,
les gens se côtoient beaucoup plus qu'avant. Mmh. C'est beaucoup plus amical. Et moi, chaque fois que je le vois, je me sens libéré, grandement libéré, évidemment, de partager un moment avec Sami Zayn, notre nouveau champion intercontinental, ou ancien champion intercontinental, continue. Et avec Kevin, bien sûr. Et ce qui est intéressant aussi avec Kevin, c'est que lui aussi a grandi en nous écoutant, et moi. Alors, quand on est revenu, c'était très drôle, en fait, de voir Kevin aussi heureux de nous voir, nous, que nous, on était de le voir, lui. Qui d'autre? Ah oui, il y a Lacey Evans, qui est vraiment... Elle est vraiment superbe. C'est une femme qui a un passé, qui a un parcours très particulier. Hein?
Oui. Ex-Marine?
Oui. Et elle est très présente et... Et les iconiques aussi. Bon, c'est plus des iconiques pour l'instant, mais enfin... Ouais. Mais il y a toujours... Il y a souvent des petits... Puisqu'on est là pendant 5-6 heures à se balader d'un côté à l'autre, à préparer nos trucs et qu'on fasse un petit truc pour Facebook. Dans les corridors, tout le monde se promène et ça s'arrête partout. Alors, il y a vraiment un grand sens très convivial.
Parfait. Et avant de vous laisser... Allez vers votre belle soirée qui est sûr qu'il se prépare.
Oui.
On va vous demander un petit résumé de Clash of Champions. Votre combat de la soirée, les moments que vous avez aimés. Je sais qu'on a parlé il n'y a pas longtemps de Sami Zayn qui a gagné le championnat intercontinental.
Ah ouais, c'était un super début de...
Ça devait être intéressant, la fin du match avec l'oreille de Jeff Hardy.
Quel match d'échelle.
Oh, fantastique. Ça a commencé, comme je disais, ça commence la barre très haute, justement, en haut de l'échelle.
Oui.
Oui. Mais c'est merveilleux quand on a pu, et encore davantage quand je suis comme maintenant seul à commenter, qu'on nous donne tellement de matière immédiate. Chaque instant, il y a une couleur que je n'ai pas besoin de faire. Je n'ai qu'à regarder et à dire ce que je vois, ce qui est le travail du commentateur au bout de la ligne. Et associer les trucs avec l'historique aussi. Mais j'ai trouvé que c'était un combat fantastique.
Oui.
les trois ont vraiment assuré. Il y a eu des détours qu'on n'a pas du tout attendus. Ouais. Justement, avec le truc avec les menottes. Et,
très créatif.
Non, très, très créatif. Vraiment, très, vraiment superbe.
Après ça, on a eu le combat d'Ambrose avec Drew McIntyre et Randy Orton. C'est un des préférés de Mark, c'est Randy Orton, que je ne comprends pas pourquoi.
Randy Orton, on s'assigne souvent dans le podcast que c'est, moi, c'est un de mes préférés, en fait.
Oui. Puis, et pourquoi?
Je trouve qu'il y a un naturel. Il a l'air toujours un peu de s'en foutre, mais il bouge tellement bien, puis c'est comme naturel. Il ne se force pas à faire ce qu'il fait, puis c'est un charisme fou. C'est incroyable.
Ouais. Alors, tu devais être très déçu qu'il n'était pas devenu champion cette fois-ci. C'est ce que les prédictions de la plupart étaient que Randy Orton allait gagner.
En fait, non, j'étais pas déçu parce que je trouve que Randy Orton est maintenant dans une place pour aider les jeunes à évoluer.
Ben, Drew, c'est pas un jeune. Là.
Non, mais Drew a pas eu sa chance comme Randy Orton a déjà eu sa chance.
C'est vrai.
Ah, c'est sûr. Ouais.
Non. Fait que c'est bon pour ça.
Ouais, mais j'ai trouvé que c'était un combat très très bien monté aussi, qui était vraiment. Qui était avec un edge très très solide, avec les petits caméos de ceux que Randy avait blessés et physiquement et dans leur honneur aussi.
Oui.
Non, c'était encore une fois, c'était un combat que j'ai trouvé très très bien construit et la tension continuait de monter à chaque fois. Mm-hmm. Et c'est vraiment, c'est l'ambulance qui aurait dû être reconduite en ambulance à l'hôpital.
Et pour terminer, un combat de famille entre Jey Uso et le Tribal Chief, Roman Reigns.
Oui, qui nous a révélé en fait, en ce qui me concerne, un côté qu'on avait, il a poussé où on ne l'avait pas encore vu.
Ouais.
Oui. Cette espèce de grande, qui était superbe de jouer. Et le côté extrêmement froid, très dur, mais en même temps, je te l'ai dit, mon petit, c'est pour ton bien, en fait, à quelque part, qu'il n'arrêtait pas de répéter, je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Et comment ça lui faisait mal de faire ça à son cousin, à sa famille, à lui, mais que c'était un mal nécessaire.
Quelle belle histoire qu'ils nous ont racontée avec ce match-là. Quelle belle histoire.
Oui. Ouais. Et Jimmy qui arrive à la fin avec la serviette et tout. Il a encore le rapport entre les frères, entre les jumeaux. Non, vraiment, encore une fois, moi, je vois pas, je ne comprends pas comment on peut se plaindre de ce qu'on nous a donné. Je trouve, depuis SummerSlam, je pense que SummerSlam et Payback et Clash of Champions ont été top.
Je suis d'accord.
Ouais.
C'est pas évident non plus. Tant mieux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et moi, j'aime bien le Thunderdome. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Là.
Tout à fait.
Ouais. Encore une innovation de la WWE qui n'arrête pas Vince McMahon et ses idées qui continuent tout le temps d'innover.
Ouais. C'est assez incroyable. Ouais. Non, ça fait une grosse différence, définitivement. Et particulièrement pour les lutteurs aussi. Avant le Thunderdome, d'avoir à décupler leur énergie pour être présent et pour garder l'intérêt, tout simplement aussi. Alors qu'avec le Thunderdome, et pour moi aussi, je me sens beaucoup plus à l'intérieur de ce qui se passe. Ouais.
En fond, je vous remercie beaucoup de votre temps, M. Brassard.
Oui.
J'ai entendu entre les branches que vous avez une petite annonce à faire.
Oui.
Une petite annonce. Ah oui, alors. J'ai décidé, il y a un bon moment, et j'ai travaillé sur ça pendant un bon moment, à joindre les deux côtés de la chose, c'est-à-dire mon travail de chanteur-compositeur, auteur et commentateur. Et donc, j'ai écrit une pièce musicale dont le titre est une de mes anciennes... une de mes phrases qui était « Quel épique époque opaque okay. » que je disais souvent. Et donc, je dis, ce n'est pas une chanson, c'est une épopée. Parce qu'une épopée, dans l'ancien temps, si on peut dire, c'était un poème où on racontait les histoires des héros et où il y avait le côté magique aussi, et il y avait énormément d'embûches qu'ils devaient traverser. Alors, cette épopée raconte l'histoire du retour d'une grande superstar et qui est mis en combat avec un nouveau catcheur.
Très intéressant.
Oui, alors elle est disponible d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut mettre, si vous avez des liens. Vous pouvez
on va faire ça sans problème, M. Bassard.
Oui, alors on peut aller sur bigmondemusique.com, qui est mon site de musique, sur Bandcamp aussi. Et d'ailleurs, justement, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur ma page WWE, sur Facebook, sur Twitter et sur Cameo aussi.
Parfait.
Ouais. Alors voilà. Je pense que...
On a fait le tour, quoi.
Ouais.
C'est un énorme privilège pour nous, en tant que fans de lutte, de vous recevoir. On est vraiment très reconnaissants de cette opportunité. Vraiment, vraiment.
Ben, c'était très agréable pour moi de discuter avec vous. Je vous souhaite le meilleur des succès.
Merci
avec
beaucoup.
Votre podcast.
C'est très apprécié.
Ouais.
Merci, M. Bassard.
Merci, à bientôt.
Au revoir.